Banque Atlantique, grandir ensemble.
Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Dans 10 minutes, priorité santé avec Laurence Garcia, mais d'abord toute l'information. Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Juan Gomez et bon week-end dans ce journal. Faire connaître leur importance et révéler l'ampleur et la conséquence de leur fonte accélérée. Voilà l'objectif de la première journée mondiale des glaciers. C'est aujourd'hui, les préserver est une question de survie, rappelle ce matin l'ONU. À suivre, reportage au Liban, à la frontière avec la Syrie, où les villages frontaliers s'organisent pour accueillir les populations déplacées par les récentes violente communautaire. Emmanuel Macron dit souhaiter une issue rapide pour que Boualem Sansal puisse retrouver sa liberté. Hier, 10 ans de prison ferme ont été requis contre l'écrivain franco-algérien. Et puis le coup d'envoi du CIDAction, c'est ce soir, on en parle dans ce journal. Ils sont pour la première fois mis à l'honneur avec une journée mondiale inédite qui leur est consacrée aujourd'hui. Les glaciers sur notre planète, les préserver est une question de survie, rappelle ce matin l'ONU, et mettre en valeur leur importance encore trop méconnue et cruciale, Simon Rosé.
274 531 glaciers sur la planète. À la fin du siècle, ils seront moitié moins en raison du réchauffement climatique. On estime en effet qu'à chaque kilogramme de dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère, ce sont 15 kilogrammes de glace qui se liquéfient. L'humanité, par son usage des combustibles fossiles, a émis 40 milliards de tonnes de CO2 l'an dernier. Les glaciers sont menacés, ils risquent de disparaître et leurs bienfaits également. L'eau douce, évidemment. 60% de l'eau qui coule dans les rivières et fleuves de la planète provient des montagnes, fonte des neiges et glaciers cumulés, alimentant les 2/3 de l'irrigation mondiale. Pour la seule région Asie-Pacifique et la chaîne himalayenne, on estime qu'1,6 milliard de personnes dépendent de cette eau. Cette eau de fonte, en bout de course, finit dans les océans et contribue à l'élévation du niveau des mers. Un phénomène qui va s'accentuer à mesure que les températures augmentent. Les glaciers mondiaux ont de quoi faire monter les eaux de 50 cm s'ils venaient à disparaître totalement. On parle en revanche de dizaines de mètres si les méga-glaciers, les calottes du Groenland et de l'Antarctique se liquéfiaient entièrement.
Simon Rosé, la journée mondiale des glaciers, on en parle dans C'est pas du vent cet après-midi avec Anne-Cécile Bras. En Israël, l'opposition s'organise après le limogeage du patron du renseignement intérieur israélien. Un premier recours a été déposé contre la décision du gouvernement de Benjamin Netanyahou de limoger Ronen Bar, devenu ces dernières années la bête noire du premier ministre israélien. C'est le parti de centre-droit du chef de l'opposition Yair Lapid qui a annoncé avoir déposé un recours au nom de plusieurs formations d'opposition. En Syrie, des centaines de familles ont pris la fuite aux exactions qui ont eu lieu sur la côte ces dernières semaines. L'Observatoire syrien des droits de l'homme évoque près de 1500 morts, parmi eux des civils de la communauté alaouite dont est issu le clan Assad, tué par la frange la plus radicale des forces alliées à Yad Tahrir al-Sham. Au Liban, les villages frontaliers s'organisent pour accueillir cette nouvelle vague de réfugiés. Reportage à Tel Biré de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
La mairie de Tel Biré a été transformée en refuge. À terre, des dizaines de matelas empilés, des valises encore ouvertes, des réchauds et couvertures. C'est ici que dort depuis 3 jours Isra. Et s'il faut, dit-elle, j'y resterai encore plusieurs mois.
Ici, grâce à Dieu, nous n'avons plus peur. Ils nous nourrissent, nous donnent à boire et nous fournissent tout ce dont nous avons besoin.
Depuis une semaine en Syrie, son village, Al-Aïché, est le théâtre de violents combats. Des tirs du matin au soir venus d'hommes vêtus de noir. Un matin, 5 d'entre eux sont entrés chez elle par effraction, ont détruit sa porte, pillé sa maison. Ce qu'il voulait surtout, c'était son mari, un ancien soldat de l'armée de Bachar al-Assad. Par chance, ce jour-là, il n'était pas là.
Je ne comprenais pas ce qu'il disait, car il ne parlait même pas arabe. C'était des combattants étrangers. J'ai juste compris qu'il disait « Allah Akbar » et « Allah Ouït ».
À Tel Biré, une 60aine de familles alaouites ont débarqué au lendemain de la chute du régime. Depuis le début des exactions sur la côte début mars, elles sont désormais 500. La mairie, la mosquée, mais aussi les maisons des habitants ont été ouvertes pour les accueillir. Abdelhamid Sakr, le maire de la ville.
Il y a de nouveaux réfugiés qui arrivent ici tous les jours. Ils arrivent dans notre ville et dans les villes alentours. À chaque fois, nous leur demandons « Retourneriez-vous en Syrie si le gouvernement vous disait que c'était à nouveau sûr ?» Ils nous répondent « Nous n'y retournerons pas tant qu'il n'y aura pas de protection internationale. »
À quelques kilomètres de la mairie, des tentes ont été montées pour accueillir les réfugiés syriens dès 2011. D'après le maire, un deuxième camp devrait prochainement être ouvert pour accueillir ces nouvelles familles débarquées de Syrie. Manon Chaplin à la frontière libano-syrienne, RFI.
Au Soudan, à présent, l'armée annonce avoir repris ce matin le contrôle du palais présidentiel dans le centre de la capitale Khartoum. Et ce, après des combats avec les paramilitaires des forces de soutien rapide, près de 2 ans après le début de la guerre. On en parle également sur notre site RFI.fr. Voilà qui ne devrait pas apaiser les fortes tensions ces derniers mois entre la France et l'Algérie. Boualem Sansal a comparu hier devant le tribunal correctionnel de Dar el Beida dans la banlieue est d'Alger. L'écrivain franco-algérien est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. 10 ans de prison ont été requis contre lui. Une parodie de justice pour son avocat, François Imray.
C'est un procès fantôme, un procès sans avocat, sans accès au dossier, sans accès aux clients. C'est un procès qui n'a rien à voir avec l'idée que chacun se fait de la justice. Vous savez, la justice, pour qu'elle soit correctement rendue, encore faut-il qu'elle soit publique, qu'elle soit transparente, qu'elle soit conforme aux règles qui font un procès équitable, sans lesquelles la détention est arbitraire, et là ce n'est pas le cas. Donc j'observe qu'après avoir été arrêté dans des conditions très choquantes, que certains ont qualifiées de disparition forcée, après avoir été maintenu au secret, lui et sa famille, pendant plusieurs mois, il est de façon très précipitée jugé en se défendant seul, parce que l'avocat sur qui il comptait n'a jamais reçu le visa pour se rendre en Algérie. Donc pour moi, c'est une justice fantôme. Et la justice fantôme, ce n'est pas la justice.
François Imray au micro de Pierre Firsion. Le verdict sera rendu le 27 mars prochain. C'est une polémique qui prend de l'ampleur en Espagne. Elle concerne 5300 migrants mineurs arrivés illégalement sur le littoral des Canaries l'an dernier et qui s'entassent aujourd'hui dans des centres d'accueil saturés. Mardi, le gouvernement socialiste a voté une réforme de la loi sur l'immigration qui oblige les différentes régions espagnoles à héberger les mineurs venant d'une région saturée. François Musso, la droite se rebelle contre cette réforme.
Inadmissible, insupportable. Le chef de file de l'opposition de droite, Alberto Núñez Feijóo, n'a pas de mots assez durs pour dénoncer la nouvelle réforme qui oblige concrètement à héberger dans toute l'Espagne 4400 adolescents migrants qui sont en trop dans les îles des Canaries saturées. Ce litige dure depuis des mois, mais désormais la loi oblige. Et elle oblige en fonction de plusieurs critères. La population, le niveau de vie et aussi les efforts consentis par le passé par la région en question. Concrètement, 806 mineurs doivent être reçus dans la région de Madrid, 795 par l'Andalousie et 479 par la région valencienne. Dans les trois cas, ce sont des gouvernements régionaux dominés par la droite. Aux yeux du leader conservateur, c'est bien cela qui est inadmissible et insupportable. Núñez Feijóo estime que, de façon injuste, ce sont les régions gouvernées par son parti qui devront consentir le plus gros effort. Il a appelé les présidents des régions concernées à désobéir, si bien qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il va advenir de ces migrants adolescents. François Musso, Madrid, RFI.
Et puis ce chiffre qui nous parvient ce matin, l'ONU annonce qu'un nombre record d'au moins 8938 personnes sont mortes sur les routes migratoires l'an dernier. Enfin, le coup d'envoi du SIDAction ce soir, grande opération de collecte de fonds et de mobilisation pour la lutte contre le VIH. Cette année, certaines associations subissent les coupes dans l'aide américaine décidée par l'administration Trump fin janvier. Écoutez à ce propos Florence Thun, directrice du SIDAction.
On est encore en état de quasiment de sidération. Aujourd'hui, on soutient 33 associations dans le monde, donc en Afrique de l'Ouest et du Centre et en Europe de l'Est. Et jusqu'à présent, 21 sur les 33 ont été touchées par les mesures de l'administration américaine. Certaines ont pu reprendre des projets, d'autres non, notamment au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, où des associations concrètement menaient des actions de prévention auprès de travailleurs du sexe, auprès de personnes LGBT, faisaient du dépistage aussi auprès de ces populations. Donc, aujourd'hui, doivent arrêter leurs actions, doivent licencier les équipes qui étaient directement impliquées sur ces projets. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des personnes qui vont se retrouver sans aucun lieu où aller pour aller se faire dépister, pour avoir les bons outils de prévention. On avait aussi un espoir considérable sur notamment l'accès à la PrEP, ce traitement préventif qui est de plus en plus distribué en Afrique et dans le monde en général. Et on voit que ce traitement préventif est aussi très ciblé par l'arrêt des financements, avec toutes les conséquences qu'on aura en termes d'épidémie de nouvelles infections, mais aussi inévitablement en termes de décès.
Florence Thun, directrice du SIDAction au micro de Valérie Cohen. 10h10 ici à Paris, vous restez avec nous à l'écoute d'RFI. Une courte pause et puis ce sera Priorité Santé.